Streamez tous vos sketchs préférés sur l'appli Rire et Chanson. Des milliers de sketchs en streaming, sans limite, gratuitement, sur les nombreuses radios digitales Rire et Chanson. Le Journal du Rire, Guillaume Po.
Bonsoir et bienvenue dans le Journal du Rire. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui un artiste qui a été révélé à ses débuts par Rire et Chanson. 25 ans de carrière, 6 spectacles, discret et rare en interview, il est l'un de vos artistes préférés. En cette fin d'année, il lance son épisode 6, c'est sa dernière création. Bonsoir Célig.
Bonsoir Guillaume.
Merci d'être avec nous sur Rire et Chanson tout au long de cette semaine.
Toujours un bonheur.
C'est toujours un événement quand tu présentes un nouveau spectacle, c'est quelque chose qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Avec l'expérience et le temps, l'appréhension, toujours là pour toi, ou à l'inverse c'est un peu plus cool, on va dire?
Non, c'est pas plus cool. La première chose à laquelle on pense, c'est j'y arriverai pas, comment je vais faire pour faire des skates, j'y arriverai pas. Et puis on travaille, parce que finalement c'est que ça,
la peur de la page blanche.
Oui, c'est ça, on travaille, on écrit des trucs qu'on trouve drôles qui sont pas drôles, des trucs pas drôles qui sont drôles, enfin on travaille vraiment. Le maître mot, et je le dis souvent quand je fais des scènes avec des jeunes talents, que je suis dans la salle, qu'on parle, c'est le travail. Il y a que ça qui fait que, après évidemment il y a la transcendance, il y a le jeu, mais le travail. Donc j'ai commencé par travailler, beaucoup m'inquiéter, et puis les mois passent, les semaines passent, et puis les sketchs s'empilent, et puis on se dit je commence à avoir une heure et quart, et puis voilà, on continue.
Et ainsi est né ce nouveau spectacle. Exactement. L'épisode 6. Alors toi, tu fais les choses pas comme les autres, Célig, puisque beaucoup d'artistes jouent leur spectacle pendant un an, deux ans, et puis après ils passent à autre chose. Toi, c'est tout le contraire, tu les joues pendant très longtemps, et sans pour autant te lasser chaque soir, j'ai déjà remarqué.
C'est vrai, jamais. Parents me demandent souvent ça, et on me dit pourquoi, et je dis parce que les gens ne sont jamais les mêmes. Donc en fait, je peux pas me lasser, parce que comment se lasser des gens qui ne sont jamais venus? Donc ça, c'est pour ça, je suis toujours heureux de jouer pour des gens qui m'entendent pour la première fois, en principe. Voilà.
C'est comme les chanteurs, où on leur demande souvent de chanter leur plus grand tube, et puis eux, ils ont envie de jouer les nouveautés.
C'est ça.
Et toi, non?
Ben non, moi je joue les nouveautés, je mets quand même un sketch toujours en rappel dans le nouveau spectacle de l'ancien spectacle. Est toujours obligé, parce que les gens demandent.
Alors l'épisode 6, tu le présentes depuis quelques semaines maintenant en tournée dans toute la France. On parle de quoi, Célig, dans l'épisode 6?
Alors, on parle beaucoup de moi.
C'est là une grande première. Hein.
Oui, c'est très grande première.
Car je ne parle jamais de toi dans tes spectacles.
Jamais, jamais. Et là, ma psy m'a dit, il va falloir parler de vous, Gilles. Et du coup, je parle de moi. Je parle de la cinquantaine plus que tassée, puisque j'ai 54 ans cette année. Je parle de mon enfance, de mon adolescence avec ma mère. Je parle de mon apprentissage en cuisine. Je parle, voilà. Donc, je parle de beaucoup de choses. Je parle de mon célibat à 50 ans passé, des sites de rencontres quand on a 50 ans et qu'on est un peu connu. J'aime pas le terme connu, parce que il y a des gens beaucoup plus connus que moi, mais malgré tout, je suis quand même un peu connu. Je parle de ça parce que c'est très compliqué.
C'est la crise de la cinquantaine.
C'est la crise de la cinquantaine, mais elle a été sobre quand même. Ouais. Elle a été un peu folle, mais sobre.
6 spectacles à ton actif, avec toujours cette force, évidemment, rendre une situation banale, je dirais, une situation du quotidien, en un moment hilarant, quelque chose de très drôle. On a comme le sentiment qu'avec toi, Célig, tout est prétexte à rire. Comment ça marche? Il faut trouver un axe. Comment on traite ça?
Ça marche qu'en fait, la bonne humeur, alors le rire, c'est vraiment l'enfant de la bonne humeur, on va dire. Mais le rire, fait partie de votre vie tous les jours, quoi qu'il arrive, votre journée passe mais tellement mieux. Et le fait est que tout le monde est drôle, sauf que des fois les gens osent pas dire des choses, alors que le rire fait partie de l'être humain, et rire vraiment, ça fait passer les moments difficiles tout le temps. Et c'est pour ça que je suis toujours en train de rire, parce que ça m'éclate. Tout à l'heure, j'étais dans le train, dans le TGV, il y avait deux personnes qui avaient la même place, qui avaient pas la même place, mais elles se sont monté le chou ensemble, qu'il y avait un complot à cause du logiciel qui avait mis les mêmes places. Elles proposaient de s'asseoir 15 minutes chacune pour j'ai écouté jusqu'à ce que je dise, non mais c'est voiture 7 et vous c'est voiture 6. Alors, ah bon, et là tout s'écroule, mais finalement j'avais déjà un sketch et c'était drôle.
L'épisode 7 est déjà en route.
Ouais, c'est très drôle tout ça. J'essaie de rire et de faire rire les gens, ou tout au moins sourire le plus possible, même quand je suis pas sur scène.
L'épisode 6, c'est ton tout nouveau spectacle, Célig, à découvrir en tournée avant deux Olympias les 21 et 22 janvier prochains. Ça approche.
Ça approche, bonsoir.
Alors, pour avoir vu tous tes spectacles, j'ai très souvent eu un sentiment face à toi, c'est d'avoir non pas un humoriste, mais plutôt un conteur d'histoire. Est-ce que tu es d'accord avec cette notion?
Tout à fait. Mon grand-père m'a raconté des histoires à moi et à mon cousin, qui d'ailleurs dirige un gros café-théâtre à Lyon. C'est pas non plus, il est partiste, mais il est dans le spectacle aussi. Et notre grand-père nous a toujours raconté des histoires depuis tout petit. C'est-à-dire que des histoires absolument saugrenues, où on allait dans une forêt, il nous disait que ici, il y a 100 ans, avait eu lieu la grande réunion des nains de la forêt avec les fées, etc. Enfin bon, et on a grandi avec ces histoires et tout. Donc je suis devenu un raconteur d'histoires. Alors après, moi, j'aimais faire rire beaucoup et j'ai greffé du rire. Mais effectivement, je raconte des histoires parce que je crois que depuis la nuit des temps, tout le monde aime qu'on raconte des histoires d'horreur, des histoires de fantômes, des histoires drôles, ouais. Des histoires. Je pense que l'être humain aime qu'on lui raconte des histoires.
J'ai noté aussi dans tes spectacles, on ne parle jamais de politique, ni de religion, ni de sexe, mais de la vie, de la vraie vie d'ailleurs, du quotidien des Français. C'est plus inspirant aussi pour toi?
Ouais, c'est plus inspirant. Et puis alors, j'ai évidemment mes opinions politiques, mais je les garde pour moi, personnellement, pour l'homme privé. Et je suis pas vulgaire. D'ailleurs, vous regarderez, hein, tous les grands humoristes ne sont jamais vulgaires. Hein. Gad Elmaleh, Foresti, Dubosc, tous ces grands humoristes ne sont jamais borderline pour ça. Après, d'autres le font. Attention, je critique pas. J'ai des potes qui le font, ils le font très bien, mais nous, c'est pas notre truc, c'est le quotidien. Et puis, la religion, pareil, ça appartient à chacun. Donc, moi, mon travail, ce que je voulais faire depuis tout petit, c'était en voyant Louis de Funès et puis en étant élevé par ce grand-père qui nous a toujours fait rire, raconter des histoires, je voulais divertir les gens le plus possible. Et divertir les gens, bah, c'était le côté populaire, en étant le plus large possible dans le quotidien, sans aborder les sujets qui fâchent.
Ouais, t'as démarré ta carrière à Lyon, d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire rire à l'époque? Tu parles de Louis de Funès, je crois que t'as été aussi beaucoup influencé par Albert Dupontel, notamment.
Tout à fait, Albert Dupontel. Alors, Louis de Funès, depuis que je suis petit, évidemment, le fait de faire rire les situations, etc. Puis ce personnage énervé, parce que je suis quand même assez énervé dans mes spectacles, ça me causait, moi. Et puis, surtout, quand j'ai vu Albert Dupontel, là, c'est le choc. Sur scène, c'est le choc. C'est me dire, oh, c'est là que je dois être, ma place est là-bas. Ouais. C'est ça que je veux faire. J'ai une espèce de... Et je n'ai jamais rencontré Albert Dupontel. Hein, peut-être qu'il aime pas mes sketchs, j'en sais rien. En tout cas, ça aurait été un rêve pour moi. C'est toujours un rêve pour moi de rencontrer Albert Dupontel parce que il a vraiment été à la base de la scène où je me suis dit, mince, c'est là que je dois être.
Et puis, il y a toujours ce côté authentique aussi chez toi qu'on retrouve, une vraie sincérité dans le texte, puisque ça sonne très vrai finalement ce que tu racontes. Et c'est aussi ça, toute ta force. L'inspiration, tu vas la chercher dans ton propre vécu.
Oui, je vais la chercher dans ma vie. Déjà par rapport à la...
Tu vas au loto?
Je vais au loto. Alors ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais avant j'en ai fait quand même. C'est assez fabuleux. Je vais au loto, je vais dans les vide-greniers, je vais dans les farfouilles, les brocantes. Je fais tout ça. Ouais. Vraiment, je vais dans des rassemblements de danse, de plein de choses. Je fais plein de choses parce que je fais partie. Je suis un contemporain. Je fais partie de mon monde et mon monde c'est ça. C'est chacun a son propre monde, mais moi je puise ça dans ma propre expérience parce que je l'ai vécu. Donc je peux le raconter. Je peux pas aller faire un sketch sur un avocat. Je sais pas. Ouais. Je suis jamais allé dans un tribunal. J'ai jamais vu travailler un avocat, je ne sais pas, je ne vais pas faire un sketch là-dessus. Donc il faut que je vive la situation, ou moi, ou par procuration, mais très proche de la situation.
Est-ce qu'il y a des nouveaux personnages dans cette création?
Alors non, il n'y a pas de personnages. J'en ai enlevé. Dans le 5,
il y avait Jean-Georges.
Non, dans le 6, il n'y a pas. On rencontre des personnages que j'ai croisés dans ma vie, ouais. Mais il n'y a pas de... C'est des apartés, quoi. Il n'y a pas de personnages proprement parlés.
Tu en parlais un instant de Jean-Georges. Je voudrais justement revenir aujourd'hui avec toi sur ces personnages emblématiques de ton répertoire. Jean-Georges, c'était donc dans l'épisode 5. Personnage haut en couleur.
Personnage haut en couleur qui m'a été inspiré par un membre de la Comédie Française que j'avais croisé dans une soirée qui était avec d'autres humoristes, hein, ouais. Et qui avait été très condescendant avec nous. Humoriste, mon Dieu, quelle horreur, mon Dieu, quelle horreur. Et on conversait, était parti, et je m'étais dit, il faut que je fasse un personnage de la Comédie Française, mais moi justement j'ai pris l'inverse. Je l'ai fait très bienveillant, et je l'ai fait, au début il est condescendant, et il traverse la France, et découvre la France, il découvre les supermarchés, les matchs de rugby, les apéros, les quatrièmes mi-temps, les troisièmes mi-temps, et il se dit finalement, bah c'est bien.
Il y en a un que j'adore aussi, je crois que c'était dans l'épisode 1, le Camelot.
Oh, le Camelot, ouais, ça a été...
Comment il est né ce personnage?
Eh ben encore mon grand-père qui m'emmenait dans toutes les foires possibles, ouais. Inimaginables, on voyait ces mecs qui nous vendaient du rêve, et puis après moi je pleurais des sous à mon grand-père qui m'achetait les trucs, mais c'était fabuleux de voir ces acteurs, ces comédiens, approchez mesdames, approchez mesdemoiselles, resserrez-vous, venez découvrir une nouvelle invention des usines. Moi j'étais fasciné, qui c'est le qui coupe, qui tranche, qui amasse, qui ponce, qui scie, qui lève, qui troue, et j'achetais direct, et mon grand-père, on se gavait de ça, et à un moment est arrivé il y a très très longtemps, je dis mais c'est évident, faut que je fasse un Camelot. et Neil Camelot, et je le joue encore dans le best-of, 25 ou 30 ans plus tard, ça marche toujours, parce que les mecs, c'est toujours...
C'est intemporel.
Intemporel, j'y vais encore. J'étais encore à la Foire de Lyon là, dernièrement, au mois de mars. Les gars, c'est la même chose. Le balai magique, la raclette, je l'ai acheté, la raclette, pour faire les vitres, il n'y a pas de trace, c'est fabuleux.
Le mec le plus connu par les fans de Céline, je crois, c'est ton beau-frère Bernard.
Bernard,
qui est de retour dans l'épisode 6.
Bien évidemment, Bernard et ma sœur, ce ne serait pas un épisode s'il n'y avait pas ma sœur et Bernard. Oui, Bernard, c'est pareil. Non, d'abord est née ma sœur. Ma sœur est née
au déménagement de ma sœur.
Voilà, parce que Bernard est arrivé après, mais ma sœur arrive en premier. Et encore une fois, c'est toujours tiré de personnages de ma vie.
Ouais.
À la base, cette sœur a été inspirée par une de mes cousines. Qui ont déménagé, on avait une vingtaine d'années, on foutait rien, on buvait des bières, on foutait rien, voilà. Et ma cousine énervée a pris un frigo sur le dos, mais un frigo de bar, attention, pas un frigo américain, et elle est partie avec ce frigo en disant, ouais, vous m'emmerdez, vous faites rien. Et moi, j'ai dit, mais c'est trop fort, cette histoire. Un déménagement, je vais faire un siège sur un déménagement avec, j'ai pas dit ma cousine, parce que ça aurait été compliqué, mais la famille, j'ai dit ma sœur, comme j'ai pas de sœur, j'ai créé ma sœur, et il lui fallait un mari, Bernard. Bernard est arrivé, Bernard est un peu le fusible de ma sœur. Voilà, il contrebalance la folie de ma sœur.
Ce qui est drôle d'ailleurs quand on tape Selig sur Google, c'est que les principales questions qui reviennent, qui est la sœur de Selig ?
C'est ça.
Elle n'existe pas.
Mais t'es inspiré d'un personnage bien réel.
Si je te dis Pupus, ça t'évoque quoi ?
Ah, la chienne de ma sœur, le chiache qui a été. Bah, il fallait bien trouver un animal. Je suis très proche des animaux domestiques. Je suis le parrain de la SPA de Valence depuis quelques temps. Je m'occupe de plein. Voilà. Et il me fallait forcément. J'ai eu beaucoup d'animaux domestiques. J'en ai encore. Il me fallait un animal pour ma sœur. Elle pouvait pas avoir un chien lambda. Il lui fallait quelque chose d'exceptionnel. Et j'ai créé le chiache, le chien mélangé à la vache qu'elle a fabriqué elle-même dans son club de génétique amateur. Voilà.
C'est plaisant d'incarner tous ces personnages.
Ouais, c'est très drôle parce que c'est de la bande dessinée. On est hors, il y a beaucoup de gens.
Un côté très cartoonesque.
Oui, très cartoon. On est à la fois dans le réel, sur le quotidien et dans le complètement absurde et irréel. Comme Robert Lamoureux, où je suis très fan. Papa, maman, la bonne et moi. Le canard était toujours vivant 4 jours après que mon père l'ait ramené à la maison. On est dans la bande dessinée, on est dans l'humour, on est dans le divertissement, on est dans tout ça.
Alors, il y a Selig, l'humoriste, mais il y a aussi un artiste aux multiples talents. T'es chroniqueur, cuisinier aussi, j'ai noté sur ta bio.
J'étais cuisinier, j'en parle beaucoup dans l'épisode 6.
Ouais.
Je raconte tout ce pan de ma vie qui a duré quand même presque 20 ans.
Ouais.
15 ans, ouais. Et du coup, j'étais cuisinier, mais je suis toujours cuisinier. Ça s'oublie pas, c'est comme...
T'as pas envie d'ouvrir un petit bouchon lyonnais quelque part, non ?
Non, pas vraiment, mais j'en parle dans l'épisode 6. J'ai tellement été traumatisé par mon chef de l'époque que j'ai retrouvé d'ailleurs et que je vais faire venir à la Bourse du Travail de Lyon au mois de mars parce que les gens méritent de connaître ce personnage.
Alors tu le disais à l'instant, il y a eu des rencontres dans ta carrière évidemment, Rire et Chanson, t'es sur scène depuis 25 ans, à tes débuts il y a aussi une artiste qui a beaucoup compté pour toi et ça a été une très belle rencontre, Anne Roumanoff.
Tout à fait.
Qu'est-ce que tu as appris à ses côtés ?
Alors j'ai appris le travail parce que c'est une femme qui travaille beaucoup et qui m'a appris la rigueur du travail. Ensuite elle a donné le titre à tous mes spectacles, hein, parce que c'est quand même grâce à elle si ça s'appelle épisode 1. Merci Anne. Et puis elle m'a emmené en tournée, elle m'a fait faire ses premières parties et elle était souvent, pour ne pas dire tout le temps, en backstage à me regarder sur le côté, voir comment je faisais le travail, me corriger quand ça allait pas. Moi, quand je sortais de scène, évidemment, c'était pas mon public. Je disais oui, mais ça va pas, blablabla. Alors elle me disait, le jour où tu arriveras à faire rire mon public, tu commenceras à être un humoriste. Et j'ai travaillé, elle m'a appris cette rigueur et puis voilà, elle a cru en moi. Et elle est aussi à la base de cette réussite avec ma productrice que j'ai depuis plus de 17 ans maintenant, Audrey Guillaume. Ces femmes-là ont fait en sorte que je suis là aujourd'hui, quoi.
Ouais. Depuis, les codes de l'humour ont évolué, on est d'accord avec ça
Énormément.
Énormément. On n'écrit plus de la même manière aussi.
Non. J'ai retenu une phrase de Baffy qui a dit l'autre jour, je ne sais plus, dans une interview, peut-on rire encore de tout ? Baffy a répondu, on peut rire de tout, mais le terrain devient de plus en plus petit. Et c'est exactement ça, donc c'est très compliqué. Moi j'ai pas eu ce problème parce que comme j'ai un humour familial et puis populaire et je touche pas à des sujets qui fâchent, donc moi mon champ d'action reste énorme, mais l'humour a changé effectivement et c'est, je dirais pas que c'est plus dur pour les jeunes parce qu'on pourrait dire la même chose de nous à l'époque, donc quand j'en parle avec eux ça a pas l'air très difficile, mais quand même faut être vigilant.
Aujourd'hui on est plus dans une ère du stand-up,
oui.
Il y a des comedy clubs qui poussent comme des champignons un peu partout, il y a énormément de personnes qui veulent se lancer dans ce métier, cette nouvelle génération d'artistes, justement, elle t'évoque quoi, toi, Céline ?
Alors, je vais beaucoup les voir, ou quand je suis en tournée, qu'il y a un plateau, je reste, je regarde. Moi, ce qui me fascine, et je parlais avec eux, c'est qu'ils font des sets de 20 minutes, 20-25 minutes, et ils les tournent dans tous les comédie clubs de France ou de leur ville, peu importe, avec les mêmes humoristes comme nous, on faisait à l'époque dans les festivals, mais eux, c'est ça. Et j'ai eu cette question, j'ai dit, mais ça vous vient pas à l'idée ou vous avez pas envie d'avoir un spectacle entier ? Eh ben, pas forcément. C'est fabuleux parce que nous, notre objectif il y a 25 ans,
c'était d'avoir un spectacle complet.
Bruno Salomon, ouais. Il y a eu Jean Dujardin, il y a eu enfin tous les humoristes qui sont mes potes aujourd'hui, et puis voilà encore, et j'en oublie plein. Notre objectif c'était d'avoir un spectacle et de jouer le spectacle. Eux, leur objectif c'est de faire un set de 20 minutes. Alors très bien, moi je m'éclate, et puis quand le set est fini, bah, ils en font un autre. Et donc effectivement, c'est nouveau, c'est comme ça, c'est les temps changent, et moi je me mets en arrière et je les regarde faire avec. Bah, je suis content, des fois je me marre, des fois je me marre pas, ça dépend lesquels. Il y a des très très bons, des très doués, oui. Ça a changé, c'est cette façon-là, mais peut-être que c'est comme la mode. Je suis persuadé que dans 5, 10 ou 15 ans, faire des personnages et raconter des histoires reviendra encore à la mode. Et ceux ouais. qui découvriront ça diront « Mais c'est génial !» Comme nous, on a redécouvert les anciens qui faisaient des spectacles.
Si tu devais donner un seul conseil à celles et ceux qui souhaitent se lancer aujourd'hui sur scène dans l'humour, ce serait lequel ?
Faites ça pour l'humour et faites ça pour rire les gens et tout le reste. Que ça soit la gloire, l'argent, la réussite, ne sera que des conséquences. Ayez bon cœur, c'est vraiment ça. Et tout le reste n'est que conséquences.
On t'entend très souvent sur Rire et Chanson, Selig. On te voit peu à la télévision, t'es même plutôt rare. Alors je sais que on t'a souvent fermé les portes sans explication, ouais. et pourtant t'as fait ton bonhomme de chemin, comme on dit. Est-ce que tout cela est aujourd'hui à les digérer, j'ai envie de dire?
Carrément.
Ouais.
J'ai plus de ressenti. Non, ça s'est fait comme ça. Une carrière, c'est une carrière. La mienne est comme ça. On m'invite une fois de temps en temps quand ça me plaît. Je dis oui, j'y vais. C'est un autre exercice. Je regarde mes collègues à la télé souvent. Ils le font très bien. Moi, je serais pas forcément à l'aise dans cet exercice. Bon, c'est plus place aux jeunes, j'allais dire, que des gens de mon âge maintenant. Donc,
c'était important à l'époque d'avoir la reconnaissance du métier en...
Mais oui, je parlais avec des jeunes l'autre jour. Bah, Rire et Chanson quand on était là, et je leur disais, vous vous rendez compte que nous, quand on démarrait avec toute l'équipe, des Bruno Salomon et compagnie, notre obsession, c'était de passer à la télé. Il y avait 6 chaînes, ils n'arrivaient même pas à le comprendre. Et c'était notre obsession. Fallait qu'on passe à la télé. C'était le Graal. Fallait. Ouais. Aujourd'hui, tout a changé. Internet, les réseaux sociaux sont vraiment des vecteurs de communication énormes. Aujourd'hui, non, il n'y a plus de ressenti. Non, rien du tout.
Puis j'ai même envie de dire, t'es aussi la preuve qu'on peut réussir sans la télé.
C'est ça, même si j'en ai souffert, j'en ai beaucoup souffert, c'est vraiment été compliqué. On peut réussir, il y a d'autres parcours, parce que finalement le plus important c'est quoi ? C'est les gens qui viennent vous voir en salle et qui payent pour vous donner la vie qu'on a, c'est grâce à ça, il ne faut pas l'oublier.
25 ans de carrière,
ouais.
6 spectacles à ton actif, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé pour toi au cours de ces 25 dernières années, qu'est-ce qu'il se dit, Selig ?
Ben, je suis plutôt... Je suis chanceux vraiment, et j'ai toujours peur. Moi, j'ai toujours peur de pas être légitime. Donc depuis toujours. Hein, donc c'est mon problème. J'ai peur de pas être légitime, d'être là, même là au micro, je raconte ma vie. En même temps, je me dis bon, il y a des gens plus connus qui sont passés, qui vont passer. Toi, tout le monde s'en fout. Enfin, j'ai toujours été comme ça. Mmh. Et j'ai pas vu passer ces années parce qu'encore une fois, je fais le métier que j'aime et je travaille pas. Et je suis un très grand privilégié et j'en suis très conscient. Et je remercie tout le temps les gens quand je suis en salle pour la vie qu'ils m'ont donnée, parce que je ouais. C'est un privilège ouais. exceptionnel.
C'est vrai que t'as un lien très très fort avec ton public.
Vous vous rendez compte, ils sont là à me...
Il y a quelque chose de fusionnel ouais. entre toi et le public.
Ah bah, j'ai toujours respecté tout le temps. Je suis à la fin des spectacles faire des dédicaces, des fois une heure et demie parce que c'est pas la mine déjà, et puis que c'est grâce à eux, et puis voilà. Mais je retiens de ces 25 ans que je les ai pas vus passer parce que j'ai eu cette chance d'avoir ce privilège.
Qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde comme souvenir de toi dans 25 ans ?
Qu'il est con. Il est con, Céline. C'est ça, voilà. Il est con, Céline. J'ai vu son sketch sur ça. Qu'est-ce qu'il est con ?
Ouais.
Et c'est ça. Parce que c'est ça, finalement. C'est rigoler du quotidien.
Et si tu devais changer une seule chose au cours de ces 25 dernières années dans ton parcours professionnel, ce serait laquelle ?
Peut-être que j'aurais plus été vers les autres. Dans le sens où maintenant, je regrette de ne pas être allé vers les autres pour faire des projets communs, comme des projets au cinéma ou au théâtre. C'est pas fini, hein. C'est peut-être...
Il y a des envies d'acteurs, justement, de cinéma.
Oui,
de...
Ben voilà. Il y a des envies de cinéma ou de série télé ou ouais. de jouer. Et au-delà de jouer pour le cinéma ou pour la série, j'ai envie de participer à une œuvre avec d'autres gens, parce que j'ai fait du 25 ans de One Man Show, c'est solitude absolue, tous les humoristes le savent, mais voilà, donc j'ai le regret de pas être allé vers les autres plus, parce que j'aurais fait plus d'incartades, on va dire, dans le cinéma. Donc si ouais, des réalisateurs m'entendent, des producteurs, oui, j'ai envie d'aller travailler avec d'autres au-delà du rôle.
L'appel est lancé en tous
voilà,
les cas.
Exactement.
Merci infiniment, Selig.
Merci, Guillaume.
J'étais ravi de passer cette semaine avec toi dans le Journal du Rire. L'épisode 6 est à découvrir en exclusivité sur Rire et Chanson. Merci, Selig.
Merci.